Micmac, l'émission bric-à-brac de Radio Saint-Av.
Des rencontres.
Des reportages.
Des coups de cœur.
De l'info. Après, je sais plus, mais vous verrez bien.
One, two, three, go.
Bonjour à toutes et à tous, c'est les vacances, la vie est belle et vous êtes en direct sur Radio Saint-Av. C'est l'heure de Micmac. Au sommaire de cette cinquième émission, un reportage sur un château choyé par ses bénévoles. Ensuite, on passera à la rubrique des bambins avec une sélection musicale adaptée aux petits pour finir sur une sortie nocturne à ne pas rater.
Sur nos routes, au bout de l'impasse, au coin de la rue ou chez l'artisan, le micro de Radio Saint-Av nous balade.
Aujourd'hui, on va parler d'histoire, de patrimoine et de vieilles pierres. Le micro de Radio Saint-Av s'est rendu à La Tour, petit village de la vallée de la Sorgue. Là-bas, surplombant la rivière, au centre du village et des préoccupations des Latourins, il y a le château. On a longé ses murs, traversé sa cour intérieure pour finir au sommet d'une de ses tours. Bref, on a tout visité, tout vu du sol au plafond. Malgré tout, pour en connaître ses moindres secrets, nous avons fait appel à un spécialiste. Bernard Sauby a répondu à l'appel. À la retraite depuis 22 ans, pour s'occuper du château, comme il dit, il nous explique ce choix.
Pourquoi ce choix ? Parce que le château, je le connais depuis que je suis tout petit. Quand j'étais gamin, je courais dans ces galeries, je montais en haut des tours. Et quand on est gamin, on se fait des histoires de chevaliers, des histoires de tours, des histoires de donjons. Et c'est vrai que je pense que j'étais peut-être un des seuls à m'apercevoir à l'époque que ce bâtiment, c'était un château. Et ça a commencé il y a peut-être 55 ans, et ça dure encore. Mais maintenant, on a tout fait pour qu'on voit que c'est réellement un château, et un très vieux château.
Et donc, ce château, vous êtes un peu tombé amoureux.
C'est comme Obélix. Je suis tombé dans la marmite en étant tout petit, j'en suis pas encore sorti. Mais bon, c'est vrai que par contre, c'est quelque chose qui est quand même assez ardu, hein, parce que le bâtiment qui a été privé jusqu'en 1990 est maintenant un bâtiment communal. Il a été racheté par la mairie au mois de juin 91. Il a été confié à une association qui s'appelle les Amis du Château, et dont le but est de restaurer le bâtiment, de l'animer et puis de le gérer toute l'année. Bon, ça demande évidemment des finances, beaucoup de finances. Donc c'est pour ça qu'en étant à la mairie, c'est quand même déjà plus facile, parce qu'une collectivité a beaucoup plus accès à des financements qu'une association. Mais l'association a fait quand même dans le château sa très grosse part de travail.
Parce que l'association, en fait, les bénévoles de l'association restaurent, il y a des chantiers, je crois, bénévoles, c'est ça ?
Oui, les chantiers, c'est permanent dans le château, parce que de toute façon, toutes les personnes qui y travaillent sont bénévoles. Hein. Moi, j'ai passé la journée, je suis bénévole, demain, ça sera un autre. Bon, il se trouve que lorsqu'il y a des chantiers plus importants, là, il faut mobiliser les bras, c'est ce qui va se passer dans une quinzaine de jours. Donc, il y a des fois, selon le chantier, il faut mobiliser jusqu'à 20, 30 personnes pour arriver à faire ce que l'on a décidé de faire ce jour-là.
Et c'est pas compliqué de trouver ces bénévoles ?
C'est compliqué, c'est pas compliqué. Tout dépend comment on présente la chose. Parce que c'est vrai que c'est un travail qui est pénible, parce que c'est surtout un travail de bras. Mais c'est très souvent, c'est une journée qui est, et qu'on veut, très conviviale aussi. Hein. Donc un compense l'autre, en général.
Donc les gens, ils viennent... Quelles sont leurs motivations à venir restaurer ce château ?
Leur motivation. Ah ben là, il faut faire passer la flamme. Si on arrive à convaincre quelqu'un que ce qu'il vient faire dans le château a un intérêt pour lui et pour les autres, je pense que c'est plus facile. Mais C'est vrai qu'il y a des bénévoles de l'association jeunes qui sont là depuis très longtemps, comme moi depuis très longtemps, mais qui au lieu d'avoir 60 ans comme moi, en ont 30. Et ceux-là aussi, il y en a quelques-uns, il y en a 4 ou 5 qui sont aussi des passionnés. Et c'est certainement ceux-là qui prendront la relève. Parce que c'est vrai que le château peut se décliner en plusieurs tranches. Disons, il y a la tranche restauration, il y a la tranche histoire, il y a la tranche gestion du bâtiment, parce qu'on accueille dans le bâtiment actuellement il y a 3 gîtes, donc on peut accueillir toute l'année du monde dans ces gîtes. On fait visiter le château, malheureusement on ne le fait plus visiter qu'en juillet et en août, parce que c'est quand même dans l'état actuel du bâtiment, c'est difficile de faire autrement, hein, c'est difficile de faire autrement. Mais à terme je pense que le château a un gros potentiel pour qu'il y ait du monde tout le temps, toute l'année.
Vous voulez dire qui gère par exemple les visites, qu'il y ait quelque chose d'installé?
Tout à fait, oui, quelqu'un qui soit là, qui travaille dans le château, qui soit rémunéré, qui ne soit plus bénévole alors. Mais pour les visites, pour les gîtes, pour faire tourner le bâtiment comme peut tourner toute entreprise.
Vous parliez de flamme tout à l'heure qu'il faut transmettre. Alors est-ce que vous pourriez essayer de transmettre cette flamme à nos auditeurs et leur expliquer un peu l'histoire de ce château brièvement?
Le mieux pour transmettre une flamme, c'est d'avoir les gens en face. C'est sûr, mais bon, par contre, je peux très bien leur parler de l'histoire du château. Hein. L'histoire du château, c'est un bâtiment qui est très vieux, très très vieux. Le château de Latin, des rares châteaux qui fait partie de la douzaine de bâtiments qui étaient déjà debout avant l'an 1000. Hein. À cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. Le château de la Tour en fait partie. Le château ici, c'est quelque chose de très rustique, dans lequel la vie était très très difficile, très dure, surtout en hiver. Les gens qui étaient dedans, bon, c'est vrai qu'ils avaient des revenus de ce qui s'appelait leur fief, hein, c'est-à-dire le domaine agricole qui était autour du château. Mais c'est tout ce qu'ils avaient. C'était pas des gens très haut placés. C'était des gens un peu comme tout le monde. Hein.
Et justement, la vie dans ce château, qui est-ce qui vivait ici et quelle était la fonction de ce château en fait?
Ça aussi, c'est une bonne question. Si on s'en réfère à certains écrits comme ceux de Madame Bourgeois, le château a été mis là pour barrer la vallée de la Sorgue à cet endroit, hein, du temps où il y avait les vicomtes à Albi là-bas. Le château barrait la vallée de la Sorgue, c'était disons un poste avancé des vicomtes d'Albi là-bas, qui était du côté d'Ambialette.
Est-ce que vous pouvez me parler des gens qui habitaient ici? Est-ce que c'était des nobles? De quelle famille ils appartenaient?
Une des premières, c'est la famille de la Tour. Soit c'est elle qui a donné le nom au village, soit c'est le village qui portait déjà le nom la Tour qui a donné le nom à la famille. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire, la Tour, une tour. Cette famille est restée dans le château jusqu'en 1390. Hein. À cette époque-là, c'est la famille de Roquefeuille. Une branche de la famille de Roquefeuille qui était installée à Verzol, qui pour une raison bien particulière est venue s'installer dans le château de la Tour. Cette famille est restée là jusqu'à dans les années 1680. Grosso modo, ils sont restés chacun 3 siècles. Et en 1680, la famille de Roquefeuille a vendu le château au De Bonal, qui était à l'époque qui était sur Millau. Hein. De Bonal, c'était les qui ont été beaucoup de De Bonal, de Bonal ont été maires de Millau. Et c'est resté cette famille-là jusqu'à la Révolution. Après la Révolution, en 1793, le château a été vendu en tant que bien national. Et c'est le fermier du seigneur de l'époque, de M. Bonal, qui a racheté le bâtiment, hein, qui s'est installé, qui lui gérait déjà la propriété agricole qui était autour du château, qui appartenait au seigneur, c'est-à-dire à M. de Bonal. Il a racheté l'ensemble, il a racheté le château et la propriété agricole. Et donc lui s'est installé, la famille Cornac s'est installée en tant que propriétaire du château, agriculteur. Le château, à partir de la 1793, est devenu une exploitation agricole. Donc il y a exploitation agricole, poulailler, bergerie, paillet, grenier. Donc toutes les pièces du château avaient une fonction agricole. Hein. Je pourrais vous faire voir où se trouvaient les lapins, les poules, la bergerie, les paillets, les greniers. Ça a été la dernière fonction du château.
Et donc aujourd'hui, il est à la mairie. Et est-ce qu'il est classé, inscrit ou classé,
non,
ce
pas,
château
pas encore. Non, actuellement, il n'y a rien inscrit sur le château de la Tour. Il y a quelque chose qui mériterait d'être inscrit, même classé, qui le sera certainement. Hein. Le château a un magnifique plafond peint. C'est un plafond qui date du milieu du XVIe siècle. Hein. Ça, par contre, c'est quelque chose qui mérite d'être classé, parce qu'il faut absolument le protéger. Il n'est pas question, par contre, dans cette pièce et sur ce plafond, de faire n'importe quoi. Donc là, ça, c'est quelque chose qui mérite d'être classé.
Le château, est-ce que vous pensez qu'il a eu une fonction de défense et de protection, par exemple pendant la guerre de Cent Ans? Il y a le village aujourd'hui autour. Est-ce que les paysans qui habitaient ici venaient se réfugier dans ce château?
Bien sûr, tout à fait. Voilà, si le château avait une fonction de défense, c'était celle-là. Hein. Le village est vraiment au pied du château. Hein. D'ailleurs, les premières maisons qui pratiquement touchent le mur du château étaient décrites sur les anciens documents comme étant dans la forteresse. Donc le village faisait partie de ce qui s'appelait la forteresse. Il y avait des portes qui se fermaient, on les retrouve, l'emplacement des portes dans le village, d'énormes portes qui étaient fermées. Il y avait deux barbacanes. Une barbacane, c'était des petits bâtiments qui défendaient les entrées du château. Ça, actuellement, dans le village, on en retrouve les traces, mais elles ne sont plus... C'est une maison qui est à la place. Hein.
Que ce soit les habitants de la tour ou le blé des alentours, le château a toujours eu une fonction protectrice. Mais aujourd'hui, et depuis 20 ans, ce sont la commune et les habitants qui protègent le château et le restaurent. L'association des Amis du Château organise régulièrement des chantiers bénévoles. La semaine dernière, on est retourné sur les lieux pour rencontrer ces bénévoles en plein travail. Il coulait une dalle dans l'une des nombreuses pièces du château.
Depuis toute petite, je connais le château. J'y ai grandi en partie. Donc voilà, j'ai connu ses débuts, de la rénovation jusqu'à maintenant. Donc ça me tenait à cœur de donner un coup de main à l'association. À la base, c'est quand même une histoire qui est familiale. Mes arrière-grands-parents habitaient dans le château. Quand ils ont décidé de reprendre, de faire l'association pour le restaurer en 90, j'ai connu les débuts et toute ma famille, les gens du village se sont impliqués et on continue dans la même lignée. Maintenant, c'est à nous aussi de les aider et de prendre un peu le relais pour pouvoir mener à terme ce projet qui a été débuté maintenant il y a plus de 20 ans. Il y a encore beaucoup de choses à faire, donc on ne doit pas le laisser tomber et continuer à faire vivre ce village à travers le château qui en est le cœur.
Et aujourd'hui, au niveau des restaurations, qu'est-ce que vous faites ?
Alors là, on restaure une pièce qui se trouve au-dessus de l'ancienne bergerie qui est également une ancienne pièce voûtée. On est en train de couler une dalle pour pouvoir à terme l'utiliser comme salle de réception et pouvoir lui redonner vie.
Et il reste beaucoup de choses à faire dans le château encore ?
Oui, il reste toujours des choses à faire. Un château, ça ne sera jamais terminé. Tout ce qui est fait est toujours à... Enfin, pas à refaire, mais il faut toujours être là pour l'entretenir. Un château, ça bouge, ça traverse les années. Et donc, il y a toujours des choses à faire, à refaire. Et donc, ça ne sera jamais fini, je pense.
Et combien de bénévoles êtes-vous aujourd'hui ?
Une vingtaine.
Et tout âge confondu
Je dirais de 17 à 60.
Et c'est des gens principalement du village ?
Alors, il y a des gens du village, des amis de la famille, des amis d'autres villages aussi, qui viennent donner un coup de main, voilà, parce qu'on essaye de motiver le plus grand nombre de personnes pour pouvoir faire ces chantiers, qui sont aussi une façon de créer...
Créer du lien.
Créer du lien, voilà, ouais. Ça permet de se retrouver à travers le travail qui est quand même difficile aussi à faire, mais ça nous permet de... Voilà, de se retrouver et puis aussi de faire quelque chose qui pourra aussi durer dans le temps, quoi. Parce que ce qu'on va faire, ça sera pour les années plus tard toujours là, quoi.
Et vous, quel est votre job aujourd'hui ?
Je suis au monte-charge. J'appuie sur le bouton.
Vous habitez ici ?
Eh oui, je suis revenu dans le coin.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je travaille à Saint-Georges de Luzançon, à la fromagère, en tant que technicien de maintenance.
Et qu'est-ce qui vous motive à faire ces restaurations donc, du château de la Tour ?
Ah ben déjà, le château, c'est toute notre enfance. Et puis mon père y a beaucoup participé, et moi je l'ai aidé, donc c'est pour cela que je continue dans la lignée.
Donc vous êtes né ici, c'est ça ?
Et non, je ne suis pas né ici, je suis arrivé il y a une dizaine d'années, mais j'ai passé toute mon enfance, toutes mes vacances ici. Chez ma grand-mère.
Est-ce que vous pourriez me décrire cette journée ? Comment est l'ambiance ici ?
Ah, elle est très chaleureuse. On se régale entre amis. Un vrai bonheur.
Et aujourd'hui, c'est quoi votre travail là sur le chantier ?
Ah ben, on monte des seaux avec une poulie. Donc on monte des seaux à la carrelle, c'est la pièce, et à l'aide d'une carrelle.
Parce qu'en fait, c'est pas très pratique, c'est ça, pour faire cette dalle. Vous êtes à environ combien là ? 4 mètres ?
À 5 mètres du sol en bas, et on monte les seaux à la main, hein. Comme à l'époque.
Un par un, quoi.
Un par un.
Alors bonjour, moi c'est David, je suis infirmier à Millau, dans une maison de retraite.
Et pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ?
Je suis là pour donner un coup de main à des amis pour restaurer ce château.
Qu'est-ce qui vous motive à faire ces restaurations ?
Bah l'ambiance, on est entre copains, on passe un bon moment, il fait beau et puis après on va bouffer. Non, on va passer une bonne journée, c'est sympa.
Alors là c'est 10h moins le quart, vous êtes en pause, c'est bien ça ? Alors qu'est-ce que vous leur donnez à ces ouvriers ?
Il faut bien les récompenser, ben, ils vont manger de la saucisse, du roquefort, du fromage de chèvre, le pain de notre boulanger, je leur ai fait de la brioche, mes garçons ont amené des foisses, Camille a fait un gâteau, on va manger de la confiture, voilà, non, mais avec tout ça, quoi, ça devrait aller.
Je crois que c'est pour ça qu'ils viennent en fait, ils viennent pas vous faire la dalle.
Ah ben, non, évidemment, et après on fera un bon repas après, on fera de la daube de chevreuil. On fera du fricando, ils auront, voilà, pour ne pas manger.
Vous savez les prendre par les sentiments ?
Bah, évidemment.
En tout cas, ça donne envie. Pour visiter le château, les bénévoles vous attendent cet été. Des visites guidées sont prévues. En attendant, c'est à la demande. Le numéro pour réserver sera disponible sur le site de Radio Saint-Taf. Le château dispose aussi de gîtes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site gîte-de-latour.com.
Mercredi, c'est ma journée et puis c'est tout. Mercredi, c'est ma journée et puis c'est tout. Crédit, c'est ma journée et puis c'est tout.
Qu'ils soient sages comme des images, collants comme des caramels mous ou excités comme des puces, Micmac leur déniche les bons plans et les souffle aux parents. Cette semaine, je vous ai sélectionné deux titres des ogres de Barbac. Ils nous ont confectionné un livre-disque pour enfants, Pitocha et la tisane de couleur. Mathilde des ogres de Barbac nous en parle.
En fait, c'est tout simple, on a commencé à avoir des enfants. Donc le premier Pitocha, on l'a sorti en 2003. Voilà, c'était les premiers enfants arrivés à cette époque-là. On a voulu chanter pour eux, donc on s'est mis à faire des chansons pour eux, puis on s'est dit pourquoi pas les enregistrer aussi sur un petit disque. Alors à la base, c'était un petit projet de quelques chansons juste pour nous, et puis finalement, on en a parlé à droite à gauche à des copains qui font aussi de la musique. On a trouvé un grand enthousiasme autour de nous, tout le monde avait envie de faire comme nous, de chanter pour leurs enfants. Du coup, on s'est retrouvé avec un disque énorme, avec plein d'invités, plein de chansons, et puis un conte, et puis un jeu, et voilà, et finalement, et un livre aussi illustré. Finalement, on s'est dit, bon bah voilà, ça devient un gros projet, on va le sortir en livre-disque. Et puis on en a fait un deuxième, et puis un troisième. Donc le troisième, c'est Pitocha et la tisane de couleur, voilà, qui vient de sortir, donc qui regroupe encore plein de chansons, un conte musical et plein d'invités. En fait, le principe, c'est que Pitocha est un voyageur, donc depuis le début de Pitocha, c'est... C'est un petit garçon qui voyage et qui jongle avec les bruits. Donc il a des objets autour de lui, avec ces objets il fait des bruits et il en fait des symphonies pour bruit et pour son. Et donc ça fait des chansons, des grandes symphonies. Donc tout au long de son parcours, il rencontre des gens, il voyage et il revient avec des chansons.
Un petit aperçu des aventures de Pitocha avec le titre « Dans la famille ».
Dans la famille, c'est charmant, il y a un enfant. Quand ils vont à la fête au village, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il est sage. Les parents discutent tranquille, le petit joue aux billes. Vraiment, c'est charmant, quelle jolie petite famille.
Dans la famille en douceur, il y a deux successeurs. Quand ils vont faire le marché, tout le monde est impressionné. Les parents achètent du bio, les petits n'aiment pas le McDo. Avec les en douceur, oh là là, c'est que du bonheur.
Dans la famille, je me lève tôt, il y a trois marmots. Quand ils vont à la grand-messe, tout le monde s'écrie, les v'là, poussez vos fesses.
Les parents prient la Sainte Vierge, les petites tiennent le cierge. Mon Dieu, les je me lève tôt, c'est un sacré troupeau.
Dans la famille, pousse-toi de là, il y a quatre goujats.
Quand ils vont au cinéma, tout le monde se dit 22, v'là la smala.
Les parents mâchent du chewing-gum, les petits bouffent du pop-corn. Avec les pousse-toi de là, c'est vraiment n'importe quoi. Dans la famille, on est plein, il y a cinq chérubins. Quand ils vont au restaurant, patron s'écrie au secours, c'est le grand débarquement.
Les parents sont débordés, les petits balancent du steak haché. Non mais franchement, ceux-là, on se demande qui c'est qui les a élevés.
Dans la famille ouragan, il y a six descendants. Quand ils vont à un anniversaire, tout Tout le monde soupire, oulala, quelle galère. Les parents s'engueulent, les petits font que de brailler. Non mais dites donc les ouragans, fallait pas les inviter. Dans la famille à foison, il y a 7 rejetons. Quand ils vont au bistrot d'à côté, le serveur leur dit
désolé, on est complet.
Les parents tapent le scandale, les petits perdent les pédales. Vraiment, à foison, vaut mieux les avoir en photo qu'en pension.
Dans la famille, sauf qui peut, il y a des morveux. Quand ils vont faire un pique-nique,
tout le monde est en panique.
Les parents foutent le bazar, les petits font péter des pétards. Avec les sauf qui peut, il n'y a pas moyen d'être pédard.
Dans la famille, moi je décroche, il y a une quinzaine de mioches. Quand ils vont chez des amis, ça se termine en tragédie. Les parents s'embrochent, les petits se mettent des taloches. Avec les moches décroches, c'est la catastrophe.
Dans la famille, moi je divorce, il y a 18 gosses. Quand on les voit débouler, tout le monde est très gêné.
Qui est le petit frère de qui et la grande sœur de qui serait le frère de sa sœur. Et avec tous ces frangins, personne ne comprend rien.
Quand on reste à la maison, tout le monde chante à l'unisson. On invite les copains, on tape dans nos mains. Les grands jouent du violon, les petits du violoncelle. Et quand on pète les plombs, c'est un joyeux bordel. On tape sur des casseroles, on joue du rock'n'roll. On fait la farandole, on danse la carmagnole. On fait trop les guignols.
Et on perd la boussole, on fait des cabrioles. On fait des camisoles, je crois qu'on va faire le contrôle. Cette chanson n'est pas drôle. Et avec tous ces marioles, qu'est-ce qu'on rigole.
Vous venez d'écouter « Dans la famille », issu de l'album « Pitocha et la tisane de couleur » des Ogres de Barbac. On les retrouve en fin d'émission. Sinon, vous pouvez les retrouver en chair et en os ce week-end à Pézenas, au Printival. Cette année, ils sont les parrains de ce festival en hommage à Bobby Lapointe. Les Ogres ont carte blanche samedi soir à partir de 21h. Dépêchez-vous de réserver. Rendez-vous sur le site printivalbobbylapointe.com. Pour tous les inspecteurs en herbe en manque d'aventure, l'équipe du service Tourisme et Patrimoine de la Couvertoirade vous propose vendredi soir une chasse au trésor nocturne. Entre amis ou en famille, il vous faudra résoudre l'énigme templière. Frontal et bonnes chaussures obligatoires, rendez-vous à 20h30, porte nord à la Couvertoirade. L'animation est gratuite. Micmac se termine, merci à Phil pour la technique. Retrouvez Micmac le mercredi à 12h10, en rediff à 17h10 et en podcast sur le site de la radio. C'est la Sainte Fidèle aujourd'hui, alors bonne fête à tous nos fidèles auditeurs, fidèles animateurs, fidèles techniciens et fidèles bénévoles. On se quitte avec un autre morceau des Ogres de Barbac avec le titre « Pardi ». Bonne écoute et bonne fin de semaine à tous sur Radio Saint-Aff.
Mon premier, c'est au bout du port et on regarde au loin les grands bateaux partir.
Mon deuxième, c'est ce que dit la vache quand elle est fâchée et c'est aussi ce qu'elle dit quand elle est contente. Elle dit que ça d'ailleurs.
Mon troisième, c'est une petite fleur à quatre feuilles qui porte chance mais sans le L.
Mon quatrième, on en a plein les dents et même dans les poches quand on est riche.
Et mon tout paradis, c'est tout l'amour que j'ai pour toi, mon petit paradis, mon petit bonhomme à moi.
Mon premier, c'est quand on n'est pas grand.
C'est tout ? Ben ouais.
Mon deuxième, c'est l'endroit très joli où l'on attend les trains souvent en retard. Enfin, très souvent.
Mon troisième, c'est rond dans l'assiette avec de la sauce aigre douce numéro 23 au resto chinois.
Mon quatrième, c'est le cri d'un âne, sauf que là, il en a oublié la moitié.
Et mon tout paradis, c'est tout l'amour que j'ai pour toi, mon petit paradis, mon petit bonhomme à moi.
Mon premier, c'est pour le collège, on l'a sur le dos du soir au matin, il pèse trop lourd.
Mon deuxième, c'est un poisson tout plat avec des ailes, et c'est aussi parfois au milieu du crâne.
Enfin des cheveux quoi.
Mon troisième, c'est un oiseau qui ne vole pas et qui surveille les poules dans la basse-cour, et il chante même les pieds dans la boue.
Mon quatrième, c'est avant le 2, c'est après le 0, et c'est aussi quand on n'entend pas bien, hein. Et mon tout paradis, c'est tout l'amour que j'ai pour toi, mon petit paradis, mon petit bonhomme à moi.
Mon premier, c'est ce qui est à moi. Il peut être blanc ou bien Saint-Michel.
Mon deuxième, c'est la consistance de mon cœur quand je pense à toi, et aussi celle de la viande quand elle est bonne.
Mon troisième, c'est ce qu'on perd quand la phrase est bien trop, trop compliquée.
Mon quatrième, c'est ce que dit le loup quand il essaie de te faire flipper.
Et mon tout, paradis, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Mon petit paradis, mon petit bonhomme à moi.
Mon premier, c'est ce qu'on aime manger en premier dans une baguette de pain quand on a faim.
Mon deuxième, c'est ce que je risquerais de prendre si je m'inscrivais dans un club de boxe thaï. Aïe, 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 aïe.
Mon troisième, c'est une corde, mais chez les marins.
Mon quatrième, c'est un des sept mots qui prend un mix au pluriel, et c'est très, très, très bon en gratin.
Et mon tout, paradis, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Mon petit paradis, mon petit bonhomme à moi.
Je t'aime très fort, petit garnement, sacré coquin, mon tendre filou, mignon bout de chou,
mon petit bonhomme à moi. Et mon tout paradis, c'est tout l'amour que j'ai pour toi, mon petit paradis, mon petit bonhomme à moi.